אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של חנוכה. אבוי כלל הגרסה לפורמול של הגמרא. להדליק נר של חנוכה. איני נר חנוכה ונר של החנוכה. כמו זה בן סרטן עיר דפריאר, כן? גרדה לפורמול יד דן הגמרא. להדליק נר של חנוכה. זה דיג'ה אתודיה לברכות? כן? נכון, לברי גרסה של הגמרא. להדליק נר של חנוכה. Après, je vous expliquerai pourquoi les Sfaradim ne le disent pas, parce que... bon, mais pas maintenant. Mais il faut garder, même chez les Sfaradim, d'ailleurs, chez les Mekoubalim, chez les Sfaradim, on a cette girsa là, pas celle des livres. Ve'echan tzivanu, et où il nous a ordonné. Quel est le thème de la question? Quelle est la source de l'autorité de la Torah Shebealpé, qui institue des mitzvot? Et qui dit, il faut faire une bracha en disant que Dieu nous a ordonné ça. C'est une question très importante. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà appris? C'est lié à Hanouka. Et pourquoi c'est lié à Hanouka? Parce que c'est Hanouka l'événement du triomphe de la Torah Shebalpé. C'est clair? Vous voyez? Vous avez bien compris le raisonnement. Alors, ouvrez le livre de Devarim. On va nous proposer deux versets différents. Premier verset, vous l'avez dans... Ma? Nahon. Alors prenez le chapitre 17. Prenez à partir du verset 8. Allez, chapitre 17, verset 8. Est-ce que tu ne peux pas ouvrir un peu la porte, là? Essayez d'ouvrir complètement les fenêtres, parce qu'on va finir par complètement être... Complètement. Ça y est? Non, comme je t'ai dit, on ne prend pas le fromage dans le tanar. Pas le fromage dans le tanar, prends un fromage. Mais, vous êtes. Écoutez, habituez-vous à avoir chacun votre livre avant le cours. Ça y est? Viens là. Alors, je vais vous reprendre tout le contexte et on va arriver à ce verset. Je peux commencer? Tout le monde a le texte sous les yeux? Allez, on y va. Qui y palait mimecha davar? Lorsque quelque chose te semblera trop difficile, dans le cas d'un jugement, la mishpat, ben dam le dam, soit que ce soit un jugement criminel sur un crime, ben din le din, soit un jugement pénal. Vous y êtes, oui? Vous avez un livre, montrez-moi votre livre. Oui, et toi? Ah non, prends chacun son livre. Vous êtes paresseux quand même. Ça y est? Bon, allez, prenez chacun votre livre. Alors, je reprends. Qui y palait mimecha davar, lorsque une affaire, une chose, une affaire ici, te semblera trop difficile, la mishpat, pour le jugement, ben dam le dam, si c'est un jugement, il faut décider entre 100 et 100, littéralement, ben din le din, soit c'est un jugement pénal, par exemple une affaire d'argent, ou ben negar le negar, soit simplement une blessure, dibre ribot, des querelles, bisharecha dans tes tribunaux, et kanta, c'est quand même, hein. Où est ton livre, toi? Bon. Ve kamta, tu te lèveras. Ve alita et amakom, tu monteras jusqu'à l'endroit à Sherifra Hashem Elokechabo, que Hashem ton Dieu aura choisi. En fin de compte, on saura que c'est Jérusalem. ou bata el kohanim alevim, et tu iras chez les prêtres qui sont en service, vers la chauffette et chez le juge, acheriye bayamim ahem, qui se trouvera en ce temps-là. Vedarashta, et tu étudieras l'affaire, veigidou lecha, ils te diront, et devar amishpat, la décision du jugement. Veasite alpi adavar asher yagidou lecha, et tu feras, selon ce qu'ils t'expliqueront, minamakomaou, selon ce qu'ils t'expliqueront de cet endroit-là, c'est-à-dire ce que te diront les juges de Jérusalem. Puisqu'en fin de compte, cet endroit, ça sera Jérusalem. Asher ypra Hashem, que Dieu aura choisi, veshamarta la asot, et tu observeras d'accomplir kechol asher yorucha, comme ils t'auront enseigné, révélé. Alpi à Torah, selon, littéralement regardez, alpi à Torah, alpi on traduit par selon. Mais regardez comment c'est écrit en hébreu. Alpi, sur la bouche de la Torah, orale, ken? Alpi à Torah, chez Balpé, ken? Selon la Torah, sous-entendu, qui t'expliqueront oralement, c'est pas qu'ils vont te donner un livre à lire. Alpi à Torah, asher yorucha, qu'ils te révéleront, et à la mishpat asher yomru lecha, et selon le jugement qu'ils te diront, ta'ase, tu feras. L'ota sur minadavar, tu ne t'écarteras pas de la parole asher yagidou lecha, qu'ils te diront, yamin ou smol, ni à droite, ni à gauche. Et Rachid tout de suite nous dit, même s'ils te disent que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, tu feras comme ils te disent. Ça va jusque-là. On n'a pas le temps aujourd'hui d'étudier toutes les nuances. Je vais revenir sur un problème qui me semble important. Et nous avons la référence que cite la Gemara dans l'Otasur. Tu veux savoir où est l'autorité au nom de laquelle on a dit et qui nous a ordonné de faire cela? C'est ce verset-là qui institue l'autorité de l'instance juridique du temps. La Torah elle-même a déjà donné autorité que quand le Beit Din du temps des Hashmonaïm dira « c'est sa Hanouka », tu dois les suivre d'après la Torah. Vous voyez, à deux niveaux. La Torah elle-même, de Moïse, la Torah a prévu que lorsqu'il faudra diagnostiquer comment est la Halakha en ce temps-là, même pour quelque chose d'apparemment aussi nouveau que Hanouka, Ken, alors l'autorité de ceux qui ont institué la mitzvah de Hanouka vient de la Torah elle-même. Par le biais de quoi? Par le biais de ce verset, tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils te diront ceux qui ont à parler en ce temps-là. Alors je reviens sur le « en ce temps-là ». Vous le prenez donc au verset 9. C'est 9? Oui. Ou « bata el kohanim » verset 9. Tête. Et tu iras chez les kohanim. Il ne faut pas traduire ici « akohanim aleviim » les kohanim lévites. Ça veut dire les kohanim qui seront en service en ce temps-là. Vers la chauffette et chez le juge, acheriye bayamim ahem, qui sera en ce temps-là. La question simple qui se pose sur cette expression, c'est on ne peut évidemment pas aller chez un juge d'un temps d'avant ou d'un temps d'après. Il faut aller chez le juge du temps. Retenez bien cela, c'est très important. Ça vous expliquera énormément de problèmes qu'on a avec les problèmes qui se posent dans la société juive contemporaine. Il faut suivre la halakha du temps où on se trouve. J'essaie de... Tout le monde comprend un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas demander, lorsqu'un événement de l'histoire apparaît et réclame qu'est-ce que la Torah dit pour? On ne peut pas demander ça à un enseignant de 3 siècles avant ou un enseignant de 3 siècles après. Il faut aller chez l'enseignant du temps où on se trouve. Ça va de soi. Alors qu'est-ce que veut nous dire le verset? Okay. Non, j'explique après. Et je vais essayer de vous faire comprendre ça par allusion, si vous voulez. Et imaginez un problème qui se pose de notre temps. Et alors on va dire, eh bien voilà, on va chercher ça dans un livre du XIVe siècle. Qu'est-ce qu'au XIVe siècle on aurait dit de la question? Okay. Alors on va rester caduque, en arrière. On fait parler des morts. Okay. Ou bien, on va prévoir que peut-être, les choses ayant évolué, peut-être dans le siècle prochain, on fera comme ça. Alors déjà maintenant, on va faire comme ça. Non. Il faut faire comme il faut faire au temps où on se trouve. Voilà le principe, c'est, mais je n'ai pas encore expliqué. Vous comprenez quand même ? Vous voyez la gravité de ce problème. Alors, je vais vous prendre un exemple qui me semble plus approprié, puisqu'on parle de ces choses-là. Lorsque le sionisme est apparu, eh bien, on pouvait douter. Qu'est-ce que c'est que cette aventure ? Est-ce que c'est cachère ? C'est pas cachère. Et au temps de l'apparition du sionisme, pour des raisons que vous apprendrez dans l'histoire, la majeure partie des autorités religieuses se sont opposées. Et parfois, pour des raisons précises, qui aujourd'hui, avec le ridicule, nous semblent incompréhensibles. Et voilà que le temps a marché. Le temps a marché, et l'histoire dévoile que, eh bien, il se passe quelque chose d'important avec l'État d'Israël. Mais essayez de vous mettre il y a 100 ans, quand il n'y avait rien encore. Okay? Sinon, un petit groupe de juifs de plus en plus nombreux qui disent, eh bien, on va mettre fin à l'exil. On va retourner en Palestine, comme on disait à l'époque, et on va fonder des kibbutzim et des moshavot, et on va assécher les marais, faire pousser faire refleurir les jardins. Comme c'est écrit chez les prophètes, ou pas comme c'est écrit chez les prophètes, c'est ça qu'on veut faire. Bon, l'apparence du mouvement sioniste à son apparition est telle que les rabbins disent, mais c'est pas cachère. Ils ont des culottes courtes, ils ne mangent pas cachère, etc. Vous voyez à peu près la réaction. Bon, mais le temps a marché. Le temps a marché, et non seulement l'État d'Israël existe, mais il existe tellement qu'on s'est habitué à lui et qu'on ne se rend pas compte qu'est-ce que ça veut dire que 2000 ans après, un État d'Israël puisse exister. Vous suivez ? Et on continue à réagir en se basant sur ce qu'avaient dit les gens qui n'avaient pas ce recul que nous avons maintenant. Et c'est pourquoi vous avez, dans les milieux religieux en particulier, énormément de gens qui sont écartelés dans une impasse sans solution. Ils voient avec leurs propres yeux que maintenant, on est obligé d'adhérer. Mais ils sont obligés de rester fidèles à leur maître du passé qui, à l'époque, on dit « pas cachère ». Vous voyez le conflit ? Et vous n'avez aucune idée à quel point c'est un drame sans solution pour énormément de gens qui sont malheureux d'être incapables d'arriver à décider dans un conflit pareil. Vous avez suivi de quoi je parle ? Bon, c'est à des choses de ce genre, et on pourrait multiplier les exemples, que ce texte fait allusion. Fais attention. Va prendre l'avis du Kohen, du Shofet, qui a dans ton temps. Et ni celui qui avait avant, ni celui qui aura après. Très souvent, on a tort d'avoir raison parce que ce n'est pas encore le temps. Plus tard, on fera comme ça. Quand l'état des choses sera X. Si toi, tu viens, comme on dit à Vancouver, précurseur, et tu dis non, je veux maintenant, alors que ce que tu dis sera vrai dans 300 ans, maintenant, tu es condamné. C'est le drame des précurseurs. Hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et dans un sens et dans l'autre. Celui qui reste fidèle à l'attitude qu'il y avait il y a 300 ans, on pourrait croire que c'est une fidélité en béton armé. C'est une fidélité infidèle, c'est une erreur la fidélité, parce qu'il est fidèle maintenant, comme il aurait fallu être fidèle il y a 300 ans. Il est décalé. Vous voyez, dans les deux sens. Celui qui reste dans le passé, ou celui qui est trop tôt dans l'avenir, et qui n'est pas de son temps, celui-là, même s'il a raison, ça veut dire quoi ? Il aurait eu raison il y a 300 ans. Il aurait raison dans 300 ans. Aujourd'hui, il a tort. Vous avez compris à quel point c'est important ? D'où la question que Abraham a posé, mais que je vais arriver un peu tout à l'heure. C'est pourquoi la Torah a prévu de dire « Bayami Mahem, tu iras chez le juge qui aura dans ces temps-là où la question se pose. » Parce que tu ne peux pas faire répondre quelqu'un du passé ou quelqu'un de l'avenir. Vous suivez ? Et toutes les controverses entre les sages d'Israël, disons, c'est pas qu'est-ce que veut dire la Torah. C'est pas la question qu'est-ce que la Torah veut dire. C'est dans quel temps nous sommes, de telle sorte de savoir que c'est ça que la Torah dit ou autre chose. La Torah est éternelle. C'est le temps qui change. Et il faut faire parler la Torah pour la question qui se pose à elle. Vous suivez ? Il ne s'agit pas de modifier la Torah d'après le temps, mais de dire ce que la Torah éternelle dit pour ce temps. Je ne veux pas prendre d'autres exemples que celui que je vous ai cité. C'est le drame de la société juive contemporaine. On cite des rabbins qui auraient eu raison il y a 150 ans si le sionisme n'avait pas réussi. Mais il a réussi. Finalement, quel était son objectif? Un défi à l'histoire colossal. Au bout de 2000 ans d'exil, on va fonder l'État d'Israël. Eh bien, Dieu l'a fondé, cet État. Parce qu'ou bien on croit que c'est lui qui dirige l'histoire, ou bien on n'y croit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Enfin, mais on le sait a posteriori. Jérusalem. Jérusalem est rendue aux Juifs. Et à la date prévue par le Gaon de Vilna. Vous vous rappelez que je vous ai dit ça? Donc, bon. Non, c'est pas à vous? Oui. Oui. La fondation de l'État, bien sûr. Et vous croyez que la libération de Jérusalem, c'est pas une date aussi importante? Elle y est aussi dans le calendrier. Et les autres aussi. Mais je vous en parlerai pas. Bon. Vous voyez le problème? Alors, a posteriori, il se dévoile qu'on avait raison de douter. On a eu raison d'avoir tort. Mais tort, on avait, a posteriori. Alors, continuer à s'entêter à une fidélité de ceux qui auraient pu avoir raison, mais qui ont eu tort, et c'est pas de leur faute, à cause des apparences, c'est ça au quoi le verset fait allusion. Faites attention, vous risquez d'être dans l'erreur en étant dans une vérité ancienne. Vous suivez? Il faut suivre le juge du temps. Le critère, c'est celui qui donne la parole de la Torah pour le klal Israël, et pas pour telle ou telle manière particulière des Juifs, mais pour le klal Israël. Voilà quel est le critère. Alors là, je vais être obligé de m'arrêter là, on continuera la Gemara la prochaine fois. Mais, non, j'ai 10 minutes quand même, mais je ne veux pas avancer dans la Gemara, et il faut aller lentement. Je crois que c'est la première fois que j'ai une Gemara ensemble dans la grande classe. Vous voyez tout ce qui est impliqué entre les lettres. Okay? Alors, j'y vais tout doucement. Et c'est ceci. C'est que j'essaie de simplifier, mais c'est pas facile. Ou peut-être je vais tout simplement vous raconter un midrash et on prendra l'analyse point par point. Mais malgré tout, retenez l'analogie formelle des événements. Lorsqu'il fallait décider au moment des Maccabées, c'est cachère ou pas, c'est le même problème qu'il y avait à décider au moment de Herzl, c'est cachère ou pas. Finalement, quelle était la halakha au moment des Maccabées? Bracha. Vous voyez? Même si après ça échoue. Alors, ne reste qu'à ceux qui s'entêtent dans un psaque ancien qu'un seul souhait, c'est que ça échoue. Et comme ils ne peuvent pas quand même souhaiter que ça échoue, je parle d'Israël, l'État d'Israël. Comme ils ne peuvent pas quand même souhaiter que ça échoue, parce que c'est des Juifs. Et il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas souhaiter le malheur des Juifs. Okay? Alors ils sont très embêtés, vous comprenez? Parce que d'un côté, ils sont tiraillés par la fidélité qu'ils doivent à leur maître, mais ils font parler des morts, et ils devraient les faire parler vivants. C'est-à-dire, si leur maître était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Ça, ils n'osent pas poser la question. Vous voyez? Et faire parler des morts, c'est interdit par la Torah. Et oui, il y a une mitzvah absolue, interdite de faire parler les morts. Okay. De faire revenir les spirites, là, vous voyez. Bon. Et alors, d'une part, tiraillé par cette fidélité, et dans la tradition authentique, la fidélité au maître, c'est quelque chose d'énorme. Okay. Alors, vous voyez le poids que cela a. Et je me rappelle un d'entre eux que j'aime beaucoup, ça a été d'ailleurs en partie un de mes élèves, et puis maintenant il est chez les Noirs. Mais, tu vois ce que je veux dire, hein? Maman? Il m'a dit une fois, comme ça, avec beaucoup de chagrin, parce que c'est des drames, des tragédies. Il m'a dit, tu comprends, si le Rav Kook a raison, que l'État d'Israël, c'est la Géoula, alors c'est mauvais pour mon maître à moi. J'ai dit, pourquoi? Parce que mon maître à moi, il avait dit en ce temps-là que non. Alors je dis, peut-être que si toi tu dis oui, tu le sauves à lui, à ton maître. Okay? Parce que s'il était là et c'est toi vivant, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Lui, il ne veut pas le savoir. Il a dit non. Vous voyez le drame? Or, il ne peut pas ne pas venir une fois par an au Kotel. Et pourquoi il va au Kotel? Grâce aux sionistes. Je ne sais pas si vous savez le drame que ça peut représenter. Okay? Vous avez compris le problème? Et il sait très bien que s'il vient au Kotel, c'est grâce aux sionistes. Mais les sionistes, sous le trèfle. Quoi? Son rabbin lui a dit il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on pouvait douter, mais maintenant, vous voyez quel est le drame. Et je sais personnellement, je vous parle de cas connus, et il y en a des centaines. Je sais personnellement que lui voit maintenant que c'est vrai. Il ne peut pas ne pas voir. Ne serait-ce que le jour où il va pleurer au côté. Vous voyez le problème. Alors voilà, ce sont des drames insolus. Pourquoi ? Rentre dans ce verset, vois ce qu'il y a dedans. Non, incapable. Alors voilà le midrash que je vais vous raconter, mais très très rapidement. Et puis on va s'arrêter là. Vous voyez pourquoi ils sont si noirs que ça ? Je veux dire, tristes. C'est noir. Ça veut dire, ils sont... Vous voyez, le petit train est arrivé. Et ça veut dire, il faut savoir qu'ils sont très malheureux. Très malheureux. Parce qu'il y a un drame épouvantable. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est dommage, je ne sais plus où j'ai mis ça. L'année où Jérusalem a été libérée, les parachutistes faisaient des rondes devant le Kotel. Et puis un journaliste avait pris une photo, mais je ne sais pas où elle est, je l'ai dans un de mes livres, mais je ne me rappelle plus lequel. Si un jour je la retrouve, je vous la montrerai. Alors on voit un étudiant de Yeshiva, de Netour et Karta, de Mehaché Harim, assister de loin, perplexe, à ces soldats qui chantent avec un Sefer Torah devant le Kotel, alors que son rabbin lui a dit que ça, c'est pas cachère. Okay? Et alors on le voit avec son chapeau rond, il avait un parapluie, il mordillait le parapluie comme ça dans la photo, une perplexité terrible, et une tristesse. Je ne peux pas être avec eux. Vous voyez à peu près le problème. Bloqué, complètement. Vous voyez le... Donc. Et alors, voilà le midrash que je vous ai raconté. C'est arrivé à la sortie, à la génération de la sortie d'Égypte. C'est arrivé à la génération de la sortie d'Égypte. Même Moïse, ils ont douté. Même Moïse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est colossal. Vous vous rappelez la génération de la sortie d'Égypte? Vous y étiez? Le plus fort, c'est que vous y étiez. Et alors, lorsque Dieu dit à Moïse, retourne en Égypte, c'est le temps de sauver mon peuple Israël. Moïse réagit, il avait eu 40 ans avant une mauvaise expérience avec eux. Vous connaissez l'histoire, hein? 40 ans avant, il a voulu les faire sortir, ils n'ont pas voulu. Bon, se sont heurtés contre lui. Retournés contre lui. Au bout de 40 ans, vision du buisson ardent, Dieu dit, alors maintenant ça urge, retourne là-bas, et sors-moi les Hébreux d'Égypte, sinon ils disparaissent. Réaction de Moïse, ils ne vont pas me croire. Dieu lui donne un signe, et il lui dit, mets ta main sur ta poitrine et ressors là. Elle ressort blanche de lèpre. Vous connaissez le récit. Remets ta main dans ta poitrine et ressors là, elle ressort guérie. Le signe qu'il fallait dévoiler, que le temps est arrivé, ça j'ai pas le temps de vous expliquer, c'est celui qui est capable de transformer les contraires de pur en pur, d'impur en impur. Alors le Midrash pose la question suivante. Il dit, ce signe, Dieu pouvait le transmettre à Moïse, sans qu'il soit atteint par ce signe. Okay? Et pourquoi il a été atteint par ce signe? Le Midrash répond parce qu'il a douté des Hébreux, en disant, ils ne vont pas me croire. Et Dieu lui répond dans le Midrash, comment tu dis, ils ne vont pas me croire, alors qu'ils sont croyants, fils de croyants. Ma'aminim, bene ma'aminim, et tu dis, ve'em lo ya'aminoubi. Alors le Midrash est très difficile, parce que Moïse a eu raison, ils n'ont pas cru. Pourquoi Dieu l'a puni? Puisque son doute était authentique. Le Midrash explique, enfin, pardon, c'est moi qui explique, mais l'explication du Midrash, c'est que Dieu a voulu lui expliquer pourquoi ils vont douter. Pas parce qu'ils manquent de foi, parce qu'ils se trompent de foi. Regardez l'expression. Ils sont croyants, fils de croyants. Vous avez compris? Ils croient comme au temps de leur père. C'est clair? Il aurait suffi de dire, ils sont croyants. Qu'est-ce que tu dis qu'ils ne vont pas te croire? Non. Le Midrash est très précis. Ils sont ma'aminim, bnei ma'aminim. Au temps de leur père, quand c'était le temps de l'exil, la foi, c'est de rester en exil. Mais maintenant, le temps a changé. Or, quelle est leur erreur? Ils continuent à avoir la foi, mais la foi caduque. La foi du temps de leur père. Et c'est malheureusement ce qui arrive à tous les Juifs de la Gola, qui ont encore la foi. Ils ont la foi du temps de leur père. Ils n'ont pas vu qu'ils sont déjà les fils. Vous avez compris ce que je veux dire? Et la... C'est d'ailleurs un grand principe de la pédagogie talmudique. On ne peut parler à quelqu'un pour lui dire qu'il a tort que si on est capable de lui expliquer en quoi il a raison d'avoir tort. Après seulement il t'écoute. Sinon il ne t'entend pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Ben J'ai pas compris. Ce que tu dis là, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire?
On m'a été plutôt...
Oui, mais tu sais, un vieillard qui se trompe, c'est un enfant qui a vieilli, mais il est resté enfant. Comprenez, confondez pas les vieux et les vieillards. Vous voyez ce que je veux dire? Il a appris, et il continue, en vieillissant, à apprendre comme quand il était enfant. Vous comprenez la différence? Bon. Et, alors, non, je reviens à ce problème, vous voyez? Il y a un principe pédagogique du Talmud très important. Et vous ne pouvez vous faire entendre de quelqu'un, lorsque vous le contredisez, que si vous lui expliquez en quoi il avait raison de dire ce qu'il avait dit. Okay? Après seulement, il peut vous écouter. Est-ce que c'est clair? Alors, ça joue dans ce midrash. C'est-à-dire que... Si j'ose dire, Moïse a été atteint par ce signe, d'une certaine manière puni, parce qu'il a réagi, comme si les Hébreux n'avaient pas la foi. Non, ils ont la foi. C'est précisément parce qu'ils ont trop la foi qu'ils se trompent. J'ai encore ajouté autre chose, mais vous avez bien compris. Bien, trop, c'est trop. Ils restent fidèles au passé, mais à un passé dépassé. Alors, il y a une grande vertu dans la fidélité. Mais à condition d'être fidèle au projet des gens du passé, pas à leur passé. Il faut être fidèle au projet qu'il y avait dans le passé pour l'avenir. Il faut être fidèle à l'avenir, pas au passé. Sinon, c'est un passé décomposé. Bon, vous avez compris ce qui se passe là, c'est très grave. Hein? Alors, je vais vous dire, par exemple, très rapidement, et puis on va s'arrêter là, pour aujourd'hui. La diaspora aujourd'hui n'est pas la diaspora de l'État d'Israël. Elle continue à être la diaspora du Beit Sheni, Ken, alors qu'il y a déjà le Beit Shlishi. Alors ils sont très fidèles, mais d'une fidélité caduque. Et dans leur fidélité, ils sont infidèles à l'espoir de ceux à qui ils veulent rester fidèles. Ils sont infidèles par rapport à ceux à qui ils disent qu'ils sont fidèles. Vous suivez? Il y a un raté de la foi. Mais il n'y a que les gens capables de foi qui peuvent avoir des ratés de foi. Bon, alors on va s'arrêter là, on reprendra tout ça. Bien, alors nous avions une discussion dans la Gemara qui porte sur un point précis de l'Halakha. Celui qui allume la Hanouka, ou celui qui voit la Hanouka doit dire la bracha. Donc, est-ce que vous avez eu le temps déjà d'étudier ces brachot? Oui? Oui, non? Tout le monde?
Non.
Bon, alors, tout à l'heure, peut-être la fois prochaine, je ne sais pas, on verra d'après le temps. Tu m'arrêtes à midi et demi. Alors, la Gemara ici pose la question, Maïm Avarer. Quelle est la bracha qu'il faut dire? Réponse, Mevarer, Asher Kideshanu Bemizotav et Sivanu, la Likner Shel Hanouka, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer la lumière de Hanouka. Et c'est là que la Gemara pose la question, Ve'echan Sivanu, et où nous a-t-il ordonné? Alors vous rappelez le premier principe qui est important, c'est que la question de savoir quelle est la base de l'autorité de la tradition orale, enfin, c'est pas exactement la tradition orale, de l'autorité, si vous voulez, du. Oui. D'instituer des mitzvot qui ne sont pas des mitzvot de la Torah elle-même, mais qu'on appelle les mitzvot midérabanan, les mitzvot institués par la tradition, et posés à propos de Hanouka. Et je vous avais rappelé cela, que le temps de Hanouka est assez tardif dans l'histoire d'Israël. Il y a eu déjà, à travers les siècles, toute une série de décisions qui ont été données par l'autorité rabbinique. Si vous voulez, le temps est très facile à définir. C'est depuis le temps de Josué jusqu'à nous. Et puis, ce n'est pas fini. Alors, le fait que la question de la base de cette autorité soit posée, en particulier à propos de Hanouka, pose un problème que nous avons déjà envisagé. C'est que c'est effectivement le rite de Hanouka qui met en question la tradition orale. Vous vous rappelez de cela? Ce qui est relié à quelle question ? La question que nous nous sommes posée de savoir pourquoi il n'y a pas de texte écrit à propos de Chanout. Bon, c'est le premier point qui est important, tout le monde l'a bien compris. Que tenait essentiellement cela, quand la Gemara se demande quelle est la base de l'autorité de la tradition orale, elle répond à propos, elle pose cette question à propos de Chanouka. C'est-à-dire le sens donc, c'est que l'essentiel même de l'institution de Chanouka est relié à l'importance de la tradition orale. Alors là, nous avons deux réponses. La première, Rabbi Via Amar, ni Notasur. C'est le verset 11 du chapitre 17 de David, que nous allons reprendre brièvement. Voilà, vous noterez donc ce verset, vous l'apprendrez pour lui-même. Je le reprends. Alpi à Torah Yorucha, c'est selon l'enseignement de la Torah qu'ils te dévoileront, te révéleront, t'enseigneront, te montreront. Vers la Mishpat Asher Yomrulecha Ta'ase, et selon le jugement qu'ils t'indiqueront, tu feras. Lotasur Minadabar Asher Yagidulecha Yaminusmo. Tu ne t'écarteras de ce qu'ils t'enseigneront, ni à droite, ni à gauche. Bien, je vais vous donner quand même une explication supplémentaire pour le sujet lui-même. Ce verset fonde l'autorité des instances juridiques à travers les générations. Chaque fois qu'il y a un problème nouveau qui se pose, alors on demande au tribunal quelle est la réponse de la Torah par rapport à ce problème. Et pas forcément un problème nouveau, mais un problème qui s'est posé dans la société et on ne sait pas comment répondre. En fin de compte, à tous les niveaux de la hiérarchie des tribunaux, il y avait un tribunal par ville, un tribunal par région. Finalement, c'est le tribunal suprême de Jérusalem qui est habilité à donner la réponse définitive. Bon. Et alors, c'est ce texte qui est pris comme base de la réponse à la question qui est posée ici, dans notre Gemara. Mais la réponse ne concerne pas en particulier Hanouka, mais l'ensemble des prescriptions que la tradition va instaurer à partir donc du temps de Josué, c'est-à-dire après Moïse. Et on pourrait effectivement se satisfaire de cette réponse, puisque le cas de Hanouka, a priori, n'est pas particulier. C'est une institution de la tradition à un certain moment de l'histoire. Et donc, ça entre dans le cas général, chaque fois que le tribunal suprême, le Sanhédrin, a instauré une takana, c'est-à-dire une décision, qui vient prendre corps avec l'ensemble de la Torah. C'est clair jusque-là. Maintenant, la Gemara ne se satisfait pas de cette réponse, qui pourrait être valable si Hanouka n'était pas le cas particulier que nous avons défini. C'est-à-dire, par définition, l'institution d'un rite qui met en question la tradition orale elle-même dans son essence. D'où la deuxième réponse. Je crois que c'est là qu'on est arrivé. Oui ? Alors, on va lire encore, il y a juste une ligne. Rav Nechemia Amar, Rav Nechemia dit pour sa part, c'est que la base doit être trouvée dans un autre verset qui se trouve au chapitre 32 de Devarim. Alors, vous allez prendre le texte, chapitre 32. Alors, c'est verset 7 du chapitre 32. Okay. Verset 7. Tout le monde y est ? Alors le verset dit ceci, Zechor Yemot Olam, souviens-toi des jours du monde, c'est-à-dire depuis le commencement de l'histoire du monde, Binu Shnot Dor Vador, comprenez ce qui s'est passé dans les années de chaque génération, Dor Vador, et on arrive à la citation que nous donne la Gemara, Shea la Vicha Veyagetcha, interroge ton père et il t'expliquera, Zeknecha, tes anciens, ça veut dire les plus haut que le père, le grand-père ou l'arrière-grand-père, veillons roulard, et ils te diront. C'est-à-dire, chaque fois qu'une question va se poser sur l'identité d'Israël, nous avons donc deux sources d'enseignement. D'une part, l'autorité rabbinique, je veux dire des maîtres, telle que nous l'avons vu dans le chapitre 17, oui. Et puis d'autre part, l'autorité qui passe par la mémoire familiale. Je crois que c'est sur ce point d'analyse que nous sommes arrivés. Okay. Alors je vous ai dit que je vous citais l'enseignement du Maharal, tel qu'il a été transmis dans notre génération par le Rav Boutner. Je vous ai cité ce nom. Il explique de la manière suivante. C'est-à-dire la Torah est transmise en Israël par deux voies, par deux moyens. L'enseignement du contenu de la Torah élaboré par les maîtres, le Rav, et la capacité d'être lié à cette Torah dans son identité même en tant qu'Israël par le Père. Donc il y a la Torah du Rav et la Torah du Av. Alors il établit premièrement une différence importante à comprendre. La Torah du Rav, c'est la Torah Bepoav. Ça veut dire en acte. Réalisé, effectif, dans son contenu, le contenu de connaissance qui est transmis de génération en génération, et la filiation est du maître au disciple. Et la Torah, je vais Korach s'oppose à Poal. Retenez bien ce terme parce que vous l'utiliserez dans beaucoup de sujets. Poal, en acte, et ça veut dire Poel. Faul, faire, actualiser, rendre en acte, rendre effectif. Koach, le potentiel. Le sens fondamental de Koach, c'est, le général de Koach, c'est la force. De Koach, c'est en potentiel. Alors, c'est à ce point de l'analyse que nous étions arrivés. Alors, le thème général est très simple. C'est que lorsqu'il y a eu cet affrontement entre la civilisation grecque et la civilisation hébraïque, à ce stade-là, c'était la civilisation judéenne, eh bien, les Grecs ont diagnostiqué qu'ils avaient trouvé, si vous voulez, une culture antagoniste absolument. Il y a une sorte d'épreuve de force qui, finalement, devait aboutir, du point de vue des Grecs eux-mêmes, non pas forcément à la destruction physique des Juifs, des Judéens, mais à la destruction totale de ce que représentait l'identité culturelle hébraïque, enfin dans l'indice judéen de ce temps. Nous avons déjà touché à ce point, mais je reviendrai tout à l'heure pour expliquer l'importance, l'envergure de cet affrontement. Alors, il y a eu toute une série d'édits, de décisions qui ont été prises par le gouvernement grec en Judée. Disons, le gouvernement, c'est un mot un peu moderne, mais enfin, vous comprenez l'idée, les autorités grecques qui occupaient la Judée, qui avaient pour objectif de dénaturer l'identité judéenne, c'est-à-dire de l'helléniser. Mais vous voyez, le problème, ce n'était pas tellement une sorte d'antisémitisme qui visait à la destruction physique de la société judéenne, mais un anti-judaïsme, beaucoup plus que... vous avez compris la différence. Ce n'était pas tellement la nation juive qui était visée, mais son identité profonde, sa spécificité culturelle. Et alors, les édits en question avaient pour objectif d'interdire le culte de la Torah, la pratique de la Torah, et parmi la pratique de la Torah, il y avait en particulier la mitzvah de Talmud Torah. Donc on interdisait d'étudier la Torah. Par exemple, à cette époque, Et nous avons tout cela dans les documents historiques. Est-ce qu'en histoire, vous avez déjà rencontré cette période, hein? Ça a été repris d'une autre manière, quelques temps plus tard, par l'occupation romaine en Judée, mais c'est déjà au temps des Grecs que cette législation anti-judaïsme a commencé à être élaborée dans le détail, d'interdire la pratique des mitzvot, d'imposer le culte idolâtre aux juifs eux-mêmes, enfin, disons, différents cultes idolâtres qu'il y avait dans la société grecque, et en particulier, il y avait interdiction d'étudier la Torah. Je ne sais pas si je vous avais cité cela, il y avait un édit qui prévoyait que si on rencontrait un rabbin enseignant la Torah à deux juifs, un rabbin et deux juifs, ils étaient mis à mort les trois, parce qu'ils avaient violé cette interdiction d'étudier la Torah. Bon. Et cela, c'est un premier niveau, explique le Rav Utner, en se basant sur le Maharal, qui consiste à saper le lien qu'il y avait entre la Torah du Maître et Israël, les membres de la société judéenne, en tant que disciples, c'est-à-dire le lien du Maître-disciple. Mais il y avait d'autre part un objectif beaucoup plus profond, c'était d'assimiler complètement l'identité des Judéens à une identité de type culture hellénistique, de telle sorte d'arrêter non seulement la transmission de la Torah dans son contenu, mais la possibilité que le peuple juif un jour retrouve cette mémoire qui lui permettait d'être le peuple de la Torah. C'est-à-dire c'est à deux niveaux. Ce que les Grecs ont voulu atteindre, c'est d'une part l'arrêt de la pratique de la Torah, mais d'autre part l'arrêt de la perpétuation de l'identité juive à travers laquelle la Torah était effective. C'est-à-dire le lien de mémoire entre le Père et le Fils. Est-ce que c'est suffisamment clair, hein? Alors, donc vous avez là une citation qui peut vous servir de base à cette définition de la réponse que nous avons eue à notre première question. Pourquoi tout ce qui concerne Hanouka n'a pas été mis par écrit? Eh bien, c'est parce que ce qui était visé de la part de la culture grecque, c'était l'arrêt de la transmission de la capacité de mémoire orale de l'identité d'Israël. Et que si on l'avait mis par écrit, ça aurait été donner raison à l'objectif que suivaient les Grecs. Bien. Alors, rappelez-moi, nous sommes arrivés dans l'ensemble de ce plan concernant Hanouka. Je vous ai posé deux questions. Okay. La première, c'était celle qu'on vient de voir, et puis l'autre. Ah oui, alors ça, nous avons étudié la dernière fois déjà. Okay. C'est que, effectivement, nous voyons qu'à travers le temps, le niveau proprement militaire, national, de la victoire des Hachmonaïm, qui avait réussi en leur temps, finalement s'est dégradé et a mené la société judéenne à un échec qui sera en fin de compte sanctionné par la destruction du Beit Sheni. Je vous ai donc déjà parlé de ces deux principes que la dynastie des Hachmonaïm avait fini par violer. D'une part, la séparation des pouvoirs, oui, et d'autre part, qu'il était interdit d'intégrer par conversion forcée une autre peuplade à Israël. Je crois qu'on est allé jusque-là. En fin de compte, l'identité chrétienne a fini par naître de cette judaïsation des Iduméens, et c'est de ce point de départ que commence l'histoire du christianisme. Bon. Eh bien, il me reste aujourd'hui à vous expliquer sur ce point. Je suis désolé, j'aurais bien voulu qu'on étudie les textes déjà. Maintenant, on les fera la semaine prochaine. Je suis obligé de partir à une réunion tôt. Alors, nous allons voir un dernier point, en tout cas ce matin. C'est la nature du conflit entre la culture grecque et la culture judéenne. Bon, je crois que d'ailleurs on a vu malgré tout l'essentiel à ce sujet. Vous vous rappelez de ce que on a appris à ce propos? Le génie grec est arrivé à devenir, si vous voulez, spécialiste de l'exploration du phénomène matériel. Vous vous rappelez de cela? C'est en Grèce que finalement les mathématiques ont été non seulement redécouvertes, mais formulées, de telle sorte qu'elles ont réussi à devenir le langage de toutes les sciences à travers la civilisation occidentale. C'est-à-dire que l'âme grecque, si on peut dire, ou l'identité grecque de cette époque, a finalement été surtout sensible à ce qui, dans le monde, est de l'ordre de l'impersonnel, de la quantité, et donc du déterminé. Et c'est pourquoi, dans cette culture, vont apparaître deux dominantes, qui sont l'esthétique et la science.